lirai quelques passages de la parole de Dieu. D'abord, au psaume 51. Psaume 51. Le verset 6. Voici, tu veux la vérité dans l'homme intérieur, et tu me feras comprendre la sagesse dans le secret de mon cœur. Purifie-moi du péché avec de l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Tu veux la vérité dans l'homme intérieur. Dans l'Épître aux Romains, Épître aux Romains au chapitre 7, verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui existe dans mes membres. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, de l'entendement, je sers la loi de Dieu, mais de la chair, la loi du péché. Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, au verset 14. Je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifiés en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et dans la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 4, au verset 16, c'est l'apôtre Paul qui parle, ainsi pourquoi nous ne nous lassons point, mais si même notre homme extérieur dépérit, toutefois l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Car notre légère tribulation d'un moment opère pour nous, en mesure surabondante, un poids éternel de gloire. Nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. L'homme intérieur. Nous comprenons tous cette expression en rapport avec la personne et la personnalité humaine de tout homme. Et tout homme, quelle que soit son état spirituel, croyant ou non croyant, et à un intérieur et un extérieur. Il y a sa manière extérieure de vivre, son apparence corporelle, et puis son activité. Il y a tout ce que fait son corps. Il y a tout un homme extérieur, nous comprenons cela. Mais il agit, il s'est rend membre, notre corps agit selon les impulsions d'un être intérieur, qu'on l'appelle l'âme, qu'on appelle le dedans, qu'on appelle, suivant l'expression très large, très vague, que ce mot, le sens très large, très vague, que ce mot revêt souvent dans la parole, le cœur, il y a un être intérieur. Non seulement une âme vivante, comme en ont tous les animaux, mais une âme vivante qui a été donnée par Dieu, l'esprit a été fourni par le souffle de Dieu dans les narines de l'homme formé par lui, et cet homme intérieur est capable alors de mouvement d'un ordre moral. Il se trouve avec des possibilité de relation avec Dieu, mais quelle relation? Quelle relation? L'homme intérieur. Avons-nous regardé quelquefois dans notre être intérieur? Et nous sommes-nous arrêtés? Oui, tout homme, plus ou moins, s'est arrêté devant ce qu'il est, moralement, intérieurement. Il y a, hélas, j'ai dit hélas parce que cela a été acquis au prix de la désobéissance, du péché, et cela n'a servi qu'à mettre en évidence que l'homme est devenu pécheur. Il y a la conscience. Il y a la conscience naturelle par laquelle nous avons évidemment une certaine connaissance du bien et du mal. Il y a des choses que nous sentons mauvaises, d'autres bonnes, des choses dans lesquelles notre conscience nous accuse, et d'autres dans lesquelles elle peut nous éprouver, nous approuver. Mais cette conscience, elle est marquée comme tout ce qui est de nous-mêmes par l'imperfection, l'insuffisance, et par-dessus tout, elle a été faussée par le péché, par la désobéissance de l'âme. De sorte qu'en réalité, notre intérieur, donc parler de ces choses très rapidement et en passant, mais nous les sentons bien tous, n'est-ce pas, que notre être intérieur, en tant qu'enfant d'Adam, en tant qu'homme naturel, c'est à la fois une énigme pour nous, et un ensemble de choses qui nous font reculer lorsqu'il s'agit de nous interroger véritablement. Et Dieu, dans sa parole, vient nous dire ce qu'il en est. Il vient nous dire, et c'est le prophète Jérémie dans le chapitre 17, qui vient nous dire que le cœur humain mais quelque chose d'inconnaissable, d'insondable, mais qui est trompeur. Le cœur est trompeur par-dessus toute chose, par-dessus tout, et incurable. Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, j'éprouve les reins. Pour nous, la conscience agit et parle d'abord dans la mesure où nous la laissons parler. Et toutes les choses de la vie courante tendent, et il y a un ennemi derrière tout cela, pour empêcher notre conscience de parler. Et puis, elle ne peut nous éclairer sur le fond de nous-mêmes que dans la mesure où elle est elle-même éclairée. La conscience juge d'après des règles que les hommes ont établies, que les usages ont établies, qui peuvent varier d'un pays, d'une classe de la société à l'autre, d'une profession à l'autre, que sais-je. De sorte que la conscience est quelque chose d'extrêmement divers, d'extrêmement élastique, et quand on parle d'agir selon sa conscience, il ne s'agit que de la conscience naturelle, c'est d'un instrument bien imparfait qu'on se sert. Et l'ennemi sait très bien endormir la conscience et nous faire nous estimer supérieurs aux autres, ou si il y a des choses particulièrement répréhensibles pour nous dire que, eh bien, mais tu ne fais pas plus mal que les autres, mais celui-ci te fait bien pire, mais tu n'as pas à te mettre en peine de tel ou tel manquement, etc. Tant que Dieu est mis de côté, la vraie lumière permettant d'aller au fond de notre cœur, que dis-je, de pénétrer quelque peu dans notre âme intérieure, nous manque. Or, Dieu veut la vérité dans l'âme intérieure. Qui dira la vérité sur notre être intérieur? Je répète, l'homme laissé à lui-même est l'homme qui ne veut avoir d'autre lumière que la sienne ou celle de ses semblables, reste dans l'inconnaissance de ce qu'il est et de ce qu'il vaut moralement. Ah, il y a bien la pensée de Dieu qui intervient de temps en temps. Dans une vie, il n'est pas possible que de telles questions ne se posent pas. Mais on les refuse, on les repousse. Oh, on est trop occupé par les affaires, on est à la recherche de mieux être, de mieux vivre. On veut l'argent, on veut la considération, on veut des honneurs, on veut une grande place dans ce monde. Mais la conscience s'endort peu à peu. Nous, si elle se réveille, on a vite fait de lui donner un somnifère. Seulement, quand la lumière est là, et quand la vérité quant à l'homme intérieur, la vérité que Dieu connaît, il sait ce qu'il en est de tout nos cœurs, il les sonde. Quand sa lumière pénètre dans l'âme et que nous commençons à voir les choses comme Dieu les voit, ah, alors tout change. Alors, il s'agit, lorsque Dieu parle, de l'écouter. Il s'agit que dans l'homme intérieur, on laisse pénétrer la lumière de Dieu. Et cette lumière, c'est sa parole. C'est ce que cette parole divine nous fait connaître de la volonté de Dieu à l'égard de l'homme, la loi de Dieu qu'il a donnée, et les exemples, illustrations qui remplissent ce saint livre. Cette lumière Et Dieu veut qu'elle atteigne les consciences, et cela par la puissance, une puissance qui n'est pas la nôtre, par une opération qui ne vient pas de nous, et qui est celle de Dieu, de la grâce de Dieu et de la vérité de Dieu, et par l'Esprit de Dieu. Et c'est ainsi seulement que nous pouvons nous connaître. C'est ainsi que la sagesse, cette sagesse après laquelle les hommes prétendent courir de tant de manières, que la vraie sagesse nous est donnée. Tu me feras connaître, tu me feras comprendre la sagesse dans le secret de mon cœur. Ah, quand la lumière de Dieu est là, quand l'Esprit de Dieu est là, quand Dieu parle à l'homme, il s'agit pour celui-ci, il s'agit pour nous de le laisser parler. Il s'agit de laisser la lumière pénétrer dans notre âme. Oh, ce n'est pas peu de chose. Ce n'est pas avec un évangile superficiel qu'on réglera de telles questions. Ce n'est pas en écoutant seulement des chants agréables un instant à l'oreille que l'on descendra dans le fond de son âme, et pourtant il le faut. Il le faut avec la lumière de Dieu, avec la lampe de Dieu, avec la parole de Dieu, en laissant l'Esprit de Dieu agir. Heureux celui chez qui une telle opération, une telle œuvre de grâce salutaire s'accomplit. Alors, l'homme intérieur change. Plus exactement, l'homme intérieur ignorant de Dieu, l'homme intérieur que nous avons par naissance, par nature, entaché du péché, qui est le péché d'Adam, mais qui est le nôtre. Nous ne réfugions pas derrière la notion si fallacieuse du péché originel. Chacun est responsable pour lui-même, chacun doit rendre compte à Dieu. L'homme intérieur, cet homme intérieur, il est montré, il est vu dans toute sa dégradation. Il l'est vu dans tout ce qu'il a d'horrible aux yeux de Dieu. La lumière divine montre cela. Quand le Seigneur Jésus était sur la terre, il pouvait parler de ces choses, et il parlait de l'homme intérieur, et il disait ce qu'il y a dans le cœur. Lorsque autour de lui des gens se glorifiaient ou s'estimaient satisfaits d'ornements moraux de la vie aux yeux de leurs semblables, paraissant honorables, et même prétendant accomplir la loi de Dieu, mais en réalité leur cœur en étant écarté, ou bien simplement s'arrêtant à des rites extérieurs de propreté. Et le Seigneur dit, mais ce n'est pas des rites extérieurs concernant le manger et le boire. Le Seigneur peut dire, mais ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. C'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui sort du cœur. N'entendez-vous pas que tout ce qui est dehors entrant dans l'homme ne peut pas le souiller, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, et s'en va dans le lieu secret. Et il dit, ce qui sort de l'homme, c'est là ce qui souille l'homme. Ce qui sort de l'homme, lui savait, il met en évidence ce qui sort de cet être intérieur, de cet homme intérieur. Et du dedans, du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées,
les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil méchant, les injures, l'orgueil, la folie, toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'âme.
Et alors, il s'agit pour nous.
Et quand et Dieu nous parle, et nous prouver, nous laisser prouver par sa lumière, et de trouver notre droiture, comme il est dit à Job, trouver notre droiture devant Dieu, voir ce que nous sommes devant Dieu. Descendre dans les profondeurs de notre âme intérieure naturelle. Descendre là, par la grâce de Dieu et avec la lumière de Dieu. C'est un premier pas de la grâce salutaire. Et c'est déjà quelque chose et qui nous parle d'un travail qui est un travail divin. Car laissé à nous-mêmes, et nous ne ferions pas cela, nous ne pourrions pas faire cela. Cela amène à la repentance. Et cela s'appelle simplement la foi. Et cela s'appelle par la foi accepter ce que Dieu a dit, le témoignage de Dieu. Dieu sait de quelle manière il aura parlé à chaque homme. Mais en tout cas, pour nous tous, pour tous ceux qui appartiennent à des pays christianisés, il y a la parole de Dieu, il y a l'évangile qui a été présenté, que tout le monde a entendu plus ou moins, et il s'agit de le recevoir. Et si on le reçoit, je le répète, ce n'est pas pour que notre homme intérieur se réjouisse en lui-même et dira combien ça me fait plaisir d'entendre ces choses. Non, en réalité, l'homme intérieur naturel ne veut pas ces choses. Il repousse l'évangile. Il n'y a rien pour Dieu. Mais quand Dieu parlant une fois et deux fois, on y prend garde. Et quand on dit, ah, c'est la lumière de Dieu, c'est la parole de Dieu. Quand le témoignage divin pénètre dans notre âme, l'homme intérieur ancien apparaît dans toute sa laideur et dans toute sa hideur, dans toute sa corruption, dans toute sa perversion, rien, et j'entends même les plus belles choses morales aux yeux des hommes, se trouvant tachées de péché, orgueil, égoïsme, et en tout cas, inimitié contre Dieu. L'homme naturel est étranger à Dieu, il n'en veut pas. Et voici que la foi recevant ce que Dieu a dit, c'est-à-dire et que tout homme est pécheur, et qu'il n'y a pas en lui de volonté agréable à Dieu, que toutes les expériences ont été faites, sans loi, sous la loi, parmi les païens, parmi le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, et toujours l'homme, le vieil homme, la nature d'Adam s'est révélée toujours la même, incorrigible, incapable de se tourner vers Dieu et de le vouloir, et recevoir la parole de Dieu comme étant ce témoignage de Dieu à l'égard de ce que nous sommes. C'est un effet de cette grâce qui vient nous montrer la vérité. C'est Dieu qui, voulant la vérité dans l'homme intérieur et ne l'y trouvant pas, elle n'y est pas, vient l'y apporter, nous fait connaître la sagesse dans le secret de notre cœur, et nous, notre affaire, c'est de croire, c'est de recevoir. Je le répète, ce n'est pas un travail agréable. L'évangile L'évangile qui libère, l'évangile qui est la bonne nouvelle, la merveilleuse bonne nouvelle, elle n'est cela que pour des gens qui se sont vus perdus. Le salut n'a aucune valeur aux yeux de quelqu'un qui ne se sent pas en danger, qui ne se sent pas perdu. Et le premier effet de la parole de Dieu, c'est de nous parler de la justice de Dieu qui est révélée du ciel contre tout ce qui est contraire à Dieu. Et nous voyons dans notre cœur tant et tant de choses qui sont contraires à Dieu. Êtes-vous descendu dans votre intérieur, dans le dedans de vous, non pas seulement avec votre conscience naturelle, mais avec une conscience placée dans la lumière de Dieu, face à ce que Dieu a dit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avons-nous toujours aimé notre prochain comme nous-mêmes? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Voilà ce qui résume toute la loi. L'homme, dans son état naturel, ferme l'oreille à ces choses. Il dit, oh, ce n'est pas pour moi. Ou bien, il dit, oh, mais je suis capable de l'accomplir. Et, hélas, il se leurre, il s'abuse lui-même. Ou, plus simplement, il ne veut rien de ces choses, il les repousse, il s'en moque. Et il raille ceux qui peuvent croire encore à ces choses-là. Que dire? Il reste avec leur vieil homme intérieur, et la destinée finale ne peut être que de mourir dans ses péchés, et après la mort suit le jugement, et il y a le jugement éternel. Mais là où travaillent véritablement l'esprit et la parole de Dieu dans un cœur qui laisse pénétrer cette lumière. Oh, alors, je répète, les choses changent de face. Voici que peu à peu, elle va se former. Voici que naît un homme nouveau. Un nouvel homme intérieur. Et c'est ce que, dans le Nouveau Testament, l'expression homme intérieur désigne. Mais c'est ce nouvel homme formé par une nouvelle naissance. Il vous faut naître de nouveau, dit le Seigneur à Nicodème. Il ne s'agit pas d'améliorer l'ancien homme intérieur. Il est condamné. Et où sa condamnation suprême a-t-elle été prononcée? Eh bien, lorsque il a consommé lui-même le plus grand crime qu'il put consommer. C'est-à-dire, lorsque Dieu étant venu vers lui en grâce, dans la personne de son Fils, l'homme n'en a pas voulu, l'homme l'a rejeté, l'homme l'a crucifié. Mais alors, dans ce qui était de la part de l'homme, le témoignage suprême de sa haine de Dieu, Dieu a montré, a manifesté, a glorifié son amour par cette même croix, instrument ignominieux de cruauté et d'iniquité, d'injustice à l'égard du Fils de Dieu, du Fils de l'homme, la même personne, Jésus, né ici-bas, a été l'instrument est de la libération de pécheurs tels que nous. La croix, malédiction de Dieu à l'égard du péché, a vu sur elle l'homme parfait, le seul homme dont l'homme intérieur a toujours été à la pleine gloire et la pleine satisfaction de Dieu. un homme véritable mais sans péché, ayant part au sang et à la chair, et subissant toutes les conséquences du péché, toutes les souffrances que le péché entraînait dans le monde, mais lui sans péché, et apportant parmi les hommes pécheurs la grâce et la vérité. Et on n'a pas voulu de lui, et on l'a crucifié, mais sur la croix, il a porté nos péchés. Et c'est alors, et c'est en vertu, et sur la base de cette œuvre qui a été accomplie une fois pour toutes, l'œuvre de notre rédemption à la croix du calvaire, que peut s'effectuer dans l'âme des hommes. Cela s'est fait de tout temps, cela s'est fait à l'avance, avant que Jésus vint sur la terre, par anticipation, mais c'était toujours de la part de Dieu, sur le même principe, le même fondement qui serait posé un jour, c'est-à-dire la mort de Jésus-Christ. Bien, c'est en partant de cela, c'est sur la base de cela, que la grâce salutaire accomplit en nous son œuvre. Et notre affaire à nous, c'est de recevoir. Pour commencer, la repentance. Sans la repentance, l'œuvre ne peut être qu'une œuvre superficielle qui aura besoin d'être approfondie plus tard en véritable repentance, mais qui risque bien aussi d'être une œuvre tout à fait superficielle, comme ces grains de la parabole du semeur tombant sur le roc, ayant un tout petit peu de terre et mais qui germe aussitôt, avec joie, « Oh, c'est si heureux les anges, on chante tout de suite !» Et dès que le soleil se lève, voici que tous ces grains sont brûlés, il ne reste rien, il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de foi véritable. Oh, il faut avoir une fois ou l'autre, et Dieu veuille que ce soit au commencement même de la vie nouvelle, cette repentance à salut. Je ne sais pas si beaucoup ici ont lu, mais j'espère que beaucoup ont eu l'occasion de lire une œuvre à laquelle je pense en ce moment. C'est un beau poème d'un de nos vénérés anciens frères, Henri Rossier, qui s'appelle « Le repos ». Je pense que beaucoup l'ont lu. Et il y a là les expériences d'une âme qui arrive peu à peu au plein repos, mais qui a dû commencer par, après avoir repoussé pendant longtemps la voix du berger, a dû descendre moralement dans son cœur. Et alors il y a là une description qui est saisissante, qui répond à ce que nous dit la parole de Dieu. Quelqu'un m'a dit « Viens visiter ton cœur ». Et alors, comme avec une lampe dans un escalier qui descend spirale par spirale, plus profondément, et il voit ce qu'il est, il voit ce qu'il vaut devant Dieu. À chaque pas, voici des voix accusatrices qui se font entendre. Menteur, orgueilleux, hypocrite, adultère, parjure, etc. Tout ce que la conscience naturelle peut bien éprouver, mais sur laquelle, sur quoi elle passe facilement, et en tout cas, qu'elle ne peut pas juger comme Dieu le juge. Eh bien, il faut ces expériences-là. Ça s'appelle la repentance. Mais la repentance, c'est déjà, je le répète, l'action, une action de la foi. La première chose, c'est d'avoir reçu la parole de Dieu comme étant la parole de Dieu. Et Dieu, se révélant dans la personne de Christ, dans la personne de Jésus-Christ, la parole est pleine de Jésus-Christ, le seul qui puisse briser nos chaînes, le seul qui puisse nous tirer de l'état dans lequel nous sommes par nature. Il y a, au point de départ, par conséquent, il y a la nouvelle naissance, il y a par conséquent un homme nouveau. Et ces exercices moraux, ses peines, ses souffrances, sont suivies par l'Esprit de Dieu, par la grâce qui opère salutairement, mais qui opère en montrant la vérité. Et alors, elle conduit pas à pas cet homme intérieur, cet homme nouveau. D'abord, se repentir. Ce n'est pas le vieil homme qui se repentit, mais qui s'en pend. Il ne faut pas demander de repentance au vieil homme. On dit quelquefois, il faut se repentir et ensuite croire. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le vieil homme est incapable de se repentir. Il ne s'est jamais repenti. Il peut souffrir et des conséquences du péché sans en avoir conscience. Mais ce n'est pas là se repentir. Le fils prodigue, et quand il était dans le pays, il voyait manger des gousses, et il connaissait la famine et toutes les conséquences à désobéissance. Mais ce n'était pas la repentance. Et ce n'était pas la conversion. Il s'est converti, il s'est repenti. On peut parler de conversion lorsqu'il a dit « Je m'en irai, je vais vers mon père. » Et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel devant toi. » Il faut cette conviction de péché qui est qui accompagne, qui est le fait même de la repentance. C'est une repentance à salut. Elle ne reste pas là. Elle nous amène peu à peu cet homme nouveau, cet homme intérieur. Nous entendons la parole de Dieu peu à peu. Je ne sais pas si ici il y a des âmes, oh, il y en a certainement, qui sont convertis en réalité et sont nés de nouveau et qui n'en ont pas conscience et qui en sont à se lamenter en découvrant effectivement qu'elles sont, ou plus exactement sentant le poids des péchés commis. Des péchés commis et disant, mais comment ce poids peut-il m'être enlevé? Comment puis-je être soulagé? Mais on présente le Sauveur. Oh oui, on ne peut pas présenter l'Évangile sans présenter Jésus comme celui qui est le don de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque en lui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, c'est vrai d'une manière générale, mais ce n'est pas pour moi. Mais vous savez, je suis si pécheur, mais j'ai commis de telles fautes, mais comment puis-je être pardonné? Mais il y a l'amour de Dieu, on cherche le pécheur. Les paraboles sont là, les paraboles du chapitre 15 de Jean. Mais oui, mais ce n'est pas pour moi, mais je ne trouve pas en moi l'amour qui répond. Je sais bien que Dieu a eu pitié de pécheurs tels que je suis, et je me repens, mais je ne suis pas encore assez repenti. Mais ce n'est pas la bonne repentance. Et vous croyez en Jésus venu sur la terre et en Jésus mort sur la croix. Oui, bien sûr, alors vous pouvez vous réjouir de ce que vos péchés sont ôtés. Ah non, ce n'est pas pour moi. C'est pour d'autres qui sont meilleurs que moi. Moi, je n'aime pas assez Dieu. Voilà les raisonnements que l'on peut entendre. La grâce, de ta grâce salutaire, l'heure s'accomplit en vous. Chères âmes qui en seriez encore là, sachez que Dieu vous appelle et que le Seigneur Jésus se présente comme celui qui a porté vos péchés. Et qu'il faut vous reposer et non pas sur vous-même et sur le degré de repentance que vous avez pu avoir, bien que cela soit absolument nécessaire, mais sur le fait que ce que je ne pouvais pas accomplir, lui l'a accompli, c'est-à-dire porter le châtiment de mes péchés. Et vous avez... Il s'agit de recevoir simplement ce que la grâce vous donne, le pardon des péchés. Alors, c'est quelque chose de nouveau lorsque on en arrive là. Lorsque l'âme se trouve brusquement, souvent cela arrive brusquement, quelquefois cela est plus loin, plus long, mais il faut qu'elle se trouve au moment ou l'autre en présence de ceci,
Moi, je ne puis pas me justifier. Je suis un pécheur. Je ne suis pas autre chose. Mais Dieu a trouvé une propitiation. Mais Dieu justifie l'impie. Mais Dieu justifie celui qui croit au Seigneur Jésus. Et quand on croit au Seigneur Jésus, non pas d'une manière générale, comme le sauveur des hommes, mais comme son sauveur personnel, comme celui qui a porté mes péchés, a porté ceux des autres, c'est une chose, et c'est bien précieux pour quiconque le reçoit, mais il a porté mes péchés, il est mon sauveur, je suis justifié, et la parole le dit. Mais alors, tout s'éclaire, tout s'ouvre, et le même esprit qui avait produit la naissance, le même esprit qui a opéré en repentance dans nos âmes, le même esprit qui nous a présenté avec la parole et par la parole la personne du Seigneur Jésus, vient nous assurer de ce que la libération a été faite, la libération des pécheurs, la rémission des péchés est assurée. L'homme intérieur se réjouit dans le fait que ses péchés ne sont pas. C'est le début du chapitre 5 des Romains. Ayant été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Seulement, la rémission est désormais cette âme-là, pour revenir à ce que nous étudions ensemble hier, à propos du premier chapitre des Corinthiens, l'âme, on peut dire que cette âme-là devient l'habitation du Saint-Esprit. Jusque-là, le Saint-Esprit opérait en elle, mais n'habitait pas dans cette âme. Elle ne pouvait pas habiter. Il ne pouvait pas habiter. Tandis que maintenant, l'Esprit de Dieu est une possession de cette âme, prend possession de cette âme et la scelle loin. Et lui donne les arts. Combien cela est précieux. Connaître Jésus pour son sauveur, celui qui a porté mes péchés, qui a remis mes péchés. Seulement, ensuite, il y a d'autres expériences à faire. Et ce même homme intérieur, qui est arrivé à cette lumière, et par conséquent à cette paix, quant au pardon des péchés commis, va se trouver bientôt, d'une manière ou de l'autre, que ce soit avant ou soit après, peu importe, il faut que nous fassions ces expériences s'il y a, pour qu'il y ait des progrès dans la vie chrétienne. Voici que on apprend que délivré de la culpabilité du péché, de la peine quand couraient nos péchés. Voici que nous nous trouvons, nous faisons cette expérience, encore enserrés par des chaînes dont nous ne pouvons pas nous libérer nous-mêmes. Voici qu'il faut apprendre qu'il y a en nous, bien que sauvés, et bien qu'appartenant au Seigneur, et bien que, étant de lui, étant en Christ, et pouvant dire qu'il n'y a pas de condamnation pour nous quant à nos péchés, il y a en nous, il reste la vieille nature, il y a ce qui ne disparaîtra qu'avec ce corps, qu'avec l'être humain que nous constituons d'ici-bas. Et dans ce corps, il y a à la fois l'homme nouveau, l'homme intérieur nouveau, celui dont Dieu s'occupe, celui dont le Seigneur Jésus s'occupe, celui pour lequel il continue à intercéder dans le ciel afin de nous aider ici-bas, celui devant lequel il place l'espérance bénie de la gloire. Tout cela est vrai, mais il reste encore le vieil homme. Il reste encore l'homme intérieur. Et il est assujetti au péché, et le péché est toujours là. Et il s'agit de vivre dans ce monde, dans un monde de péché, en attendant d'être ravi avec le Seigneur dans la gloire, mais il s'agit de marcher ici-bas. Et cette délivrance alors de la puissance du péché en nous, et c'est un autre côté, une autre phase. Et ce n'est plus seulement ce scellement de l'âme qui se repose sur l'œuvre accomplie une fois pour toutes, l'œuvre de la rédemption. Ah, il s'agit maintenant d'une lutte qui s'est engagée en nous entre ce nouvel âme, l'homme intérieur, selon le Nouveau Testament, et le vieil homme intérieur. Et c'est ce que nous avons trouvé dans le chapitre 7 des Romains, c'est-à-dire, je prends plaisir quant à la loi de Dieu, quant à l'homme intérieur. Ce n'est qu'un homme nouveau qui peut dire cela. Le vieil homme ne trouve jamais de plaisir dans la loi de Dieu. Et de toute façon, elle le condamne. Et s'il n'a pas connu la grâce de Dieu, et c'est épouvantable pour lui. Et voici que c'est cet homme nouveau qui en souffre, ou plus exactement, c'est moi. C'est que le jeu dont il est question dans ce chapitre, cet être humain qui comporte à la fois ce nouvel âme, cet homme intérieur, cet entendement renouvelé, qui trouve son plaisir dans les choses de Dieu, dans la loi de Dieu, mais voilà comment il faut vivre, mais c'est là le bonheur, mais c'est là la vérité, mais c'est ainsi que je trouverai l'équilibre de ma vie, et je trouverai je pourrai marcher dans le chemin à la suite du Seigneur. Voici que cet homme-là, si de l'entendement il sert la loi de Dieu, il trouve au-dedans de lui cet autre homme, cette autre puissance qui est la puissance du péché en lui et contre laquelle il ne peut rien. Je prends plaisir à la loi de Dieu, pas développé, c'est déjà assez long, pardonnez-moi, mais chapitre 7 des Romains, mais cela revient à ceci, c'est que non seulement j'apprends que le péché habite en moi, mais j'apprends que dans ma chair, c'est-à-dire ce qui est encore la vieille nature en moi, il n'habite aucun bien, aucun espoir à en tirer, je ne puis pas me libérer de cette puissance moi-même. Et puis, en ma chair, il n'habite point de bien. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Aucune puissance. Mais tant que nous parlons de nous-mêmes, tant que nous regardons à nous-mêmes, tant que nous cherchons en nous-mêmes le moyen de nous délivrer de la puissance du péché, nous verrons qu'il est toujours plus fort que nous. Le nouvel homme, l'homme intérieur, il a de la connaissance. Par la grâce de Dieu, il est loin du Saint-Colire. Il a de bons désirs, de bonnes pensées pour servir Dieu. Il lui manque une chose. Il lui manque la puissance. Il n'a aucune puissance. Il est impuissant, le nouvel âme, par lui-même. Et alors, et s'il entreprend de lutter contre le péché, et de lutter contre le vieil homme, il ne peut pas. Il est vaincu d'avance. Que lui faut-il ? Une autre puissance que la sienne. Et voici, la grâce salutaire, elle s'accomplit en nous, l'œuvre s'accomplit en nous. Et voici que nous sommes amenés, l'âme est amenée à saisir qu'il n'y a pas de puissance en elle, mais qu'il y en a dans celui qui a porté ses péchés. Et dont cet esprit qui est l'esprit de vie et qui a une loi, qui a une puissance qui est capable, elle, de vaincre la puissance du péché, plus exactement de nous affranchir de la loi du péché et de la mort. Et c'est l'affranchissement. quand on a saisi que l'on n'a aucune force en soi, mais que nous l'avons en Christ et que nous l'avons par l'Esprit qui est l'Esprit de Christ. Il y a quelqu'un en nous.
Il y a le nouvel homme et il y a le vieil homme.
Mais il y a quelqu'un en nous et qui est là, la puissance de Dieu en libération et qui est l'Esprit de Dieu. Et c'est lui qui se charge de la lutte contre la chair. Nous avons cela dans les Galates, nous n'avons pas le temps de développer ces choses, bien sûr. Mais je voudrais simplement montrer comment il y a pour l'homme intérieur ces passages d'abord de ce qui est la conversion, le changement de pensée et la repentance par conséquent à la joie du salut et à l'assurance du salut. Et ensuite, la libération, l'affranchissement de la puissance du péché en nous. C'est ce qui est développé dans le chapitre 8 des Romains. Et c'est ainsi que l'homme intérieur est appelé à faire des progrès dans la connaissance de quoi ? De lui-même. Elle doit être finie lorsque nous avons réalisé que nous ne méritions autre chose que la croix de Christ, que non seulement Christ est mort pour nos péchés, mais qu'il a été traité à notre place sur le péché, à notre place sur la croix, comme le péché, comme notre péché, comme ce péché que et dont nous ne pouvons pas nous débarrasser, la source, la racine qui est en nous. Autrement dit, et il est mort pour nous, mais nous sommes morts avec lui, et par conséquent aussi ressuscités avec lui. Voilà le principe de la libération, de l'affranchissement. Et alors, il y a pour cet homme intérieur, je n'ai pas abordé les deux derniers passages, elles ont leur très grand prix. Cet homme intérieur, il sera appelé à être fortifié. C'est ce que nous avons trouvé dans le passage des Éphésiens. Fortifié en puissance par l'Esprit de Dieu. Et fortifié en puissance, pourquoi ? En vue de quoi ? En vue de connaître l'amour de Christ. Et en vue de connaître les choses de Dieu, tout ce qui appartient à Dieu, l'infini de Dieu, hauteur, largeur, profondeur, hauteur, il n'est pas besoin de définir ces choses, c'est infini comme Dieu lui-même, mais c'est un champ immense, mais qui est ouvert à la fois. Et pour cela, le même esprit qui a produit la nouvelle naissance, on est né d'eau et d'esprit, le même esprit qui et nous scelle comme sauvés par grâce sur la base de l'œuvre accomplie, et qui assure notre affranchissement de la loi du péché et de la mort. Le même esprit nous fortifie. Il ne s'occupe pas de nous-mêmes. Ah, il est là pour nous reprendre. Il est là lorsque nous l'attristons pour nous faire sentir que nous avons manqué. Il nous est dit dans les Colossiens de mortifier nos membres qui sont sur la terre, nos membres moraux. Le ferons-nous avec notre propre force ? Le nouvel homme n'est pas capable de le faire par lui-même. Et quant au vieil homme ? Mais l'Esprit est là, celui qui nous vient en aide dans notre infirmité, celui qui est là pour révéler et pour développer Christ en nous, qui est la puissance de vie, parce que il est la puissance même de la vie de Christ, c'est l'Esprit de Christ. Ces choses peuvent paraître difficiles à comprendre, abstraites, pas du tout. Elles sont aussi simples que possible. Il s'agit d'arrêter nos regards en dehors de nous-mêmes sur celui qui a tout accompli et à nous remettre à la puissance de celui qui nous parle du Rédempteur, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Oh, cela comporte alors la mort pratique et de notre vieillard. L'application de la mort à ce que nous étions, à ce que nous restons dans notre nature. Et cela, si nous voulons être fidèles, hélas, que nous sommes loin de ces choses, mais pourtant nous sont présentées pour que nous en vivions et que nous y vivions. L'apôtre Paul, dans des chapitres qui sont devant nous, dans cet épître aux Corinthiens que nous étudions, parlera de cela abondamment. Après avoir présenté l'évangile de la gloire, il présentera l'évangile qui est celui de la mort à nous-mêmes. Et cela de telle manière qu'il peut dire qu'il portait dans son corps chaque jour la mort. Quelle mort? Il mourait lui-même. Oui, mais c'était la mort de Jésus. La mort de Jésus à nous-mêmes. Résultat, alors c'est notre dernier passage, par fortifié en puissance par l'Esprit. Quant à l'homme intérieur, alors pour connaître l'amour de Christ et puis toutes les grandeurs de Dieu infinies, et puis pour croître jusqu'à la plénitude de Dieu, un passage magnifique. Mais alors, le dernier passage, la vie du chrétien n'est pas pour être une vie de facilité et une vie d'aisance, une vie où l'on est respecté, honoré ici-bas. Pour l'apôtre Paul, et il devrait en être, et il doit en être, et il en est ainsi de nous, forcément dans une mesure, si peu que nous soyons fidèles, c'est le dépérissement de l'être, de l'homme extérieur. C'est vrai d'une manière générale pour tous les hommes, le dépérissement du corps, dépérissement de l'extérieur. Mais pour le chrétien, et pour un chrétien fidèle, et pour un apôtre Paul, c'était en rapport avec le dévouement même, la consécration de toute sa vie au maître qu'il avait appelé, qu'il avait saisi, et qu'il poursuivait cherchant à le saisir, et de telle sorte qu'il pouvait avoir bien des raisons de se décourager, de se lasser. Mais que dit-il? C'est pourquoi nous ne nous lassons point. Mais si l'homme, même l'homme extérieur, dépérit, l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Renouvelé. Il puise des forces nouvelles. Il est lui-même chaque jour, recréé comme à nouveau. Par la même puissance de l'Esprit, nous occupons de celui qui est la vie, Jésus lui-même. La vie de Jésus dans un corps mortel. Que de choses magnifiques nous avons là. Alors, l'homme intérieur renouvelé de jour en jour. L'homme intérieur qui est un homme nouveau. L'homme intérieur qui est appelé à se réjouir dans la rédemption accomplie. L'homme intérieur qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu, dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu, et qui est fortifié dans sa lutte, fortifié dans ses épreuves, dans ses tribulations, dans ses souffrances, par la puissance de l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui combat contre la chair. Nous ne pouvons pas. L'Épître aux Galates nous montre cela. Et qui, alors, cet homme intérieur renouvelé de jour en jour par la même puissance de vie, qu'est-ce qu'il a comme terme? Oh, nos regards sont tournés vers les choses qui ne se voient pas, vers les choses qui sont éternelles. Et le moment viendra. Oh, comme il resplendissait aux yeux de l'apôtre ce moment-là, où l'homme extérieur lui-même, sera entièrement transformé. Cet homme extérieur qui dépérit sera transformé à l'image, à la ressemblance du corps glorieux de celui que nous attendons du ciel comme sauveur. Le terme, c'est lorsque la tente terrestre sera détruite, l'édifice éternel, le corps glorieux dans le ciel, l'édifice qui n'est pas fait de main, une maison dans les cieux éternels. Voilà l'espérance chrétienne. Voilà ce qu'il y avait devant l'apôtre. Voilà ce qu'il y a au terme du renouvellement de l'homme intérieur. Le moment où tout ce qui est mortel en nous sera absorbé par la vie. Eh bien, que Dieu nous donne de méditer chacun pour notre compte ces vérités si grandes, si précieuses concernant ce déroulement, ce déploiement progressif dans nos âmes et de la grâce salutaire dont l'œuvre s'accomplit en nous, tout étant fondé sur l'œuvre de Christ dont nous sommes le salaire. Nous sommes ton salaire, ô Jésus céleste et Dieu.